RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et bienvenue dans la seconde partie de Je pense, donc j'agis. Je vous rappelle que nous parlons de la lèpre ce matin qui touche plus de 3 millions de personnes chaque année dans le monde. Et pour sensibiliser vraiment à cette maladie, pour nous rappeler que la lèpre est toujours là, la Fondation Raoul Folro organise dans quelques jours, du 28 au 30 janvier, la journée mondiale des malades de la lèpre. Voilà, je me suis pas trompé parce que ça a changé de signification. Vous continuez de nous appeler ce matin, de participer à cette émission pour nous parler de la Fondation Raoul Folro et de ses engagements sur le terrain. Dites-nous si vous êtes bénévole, par exemple, avec Raoul Folro, si vous avez déjà participé de près ou de loin à des actions. On vous attend au 04 72 38 20 23. Par mail à l'adresse direct@rcf.fr et dans notre groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Jusqu'à 11h, Je pense donc j'agis sur RCF.
Avec nos chroniqueurs qui chaque matin viennent prendre la parole pour nous parler de moyens d'agir, c'est ce que fera Véronique Durand du magazine La Vie à 10h20. Rebonjour les gousses.
Oui, bonjour, pardon.
Non, vous étiez concentré. Je rappelle que vous êtes le président du directoire de la Fondation Raoul Folro. Bonjour Marie-Bénédicte Lose.
Bonjour Melchior.
Merci d'être avec nous, nous accompagner jusqu'à 11h. Vous êtes directrice des projets adjointe à la Fondation Raoul Folro. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est notamment par rapport à cette journée qui arrive. Alors, ça va être sur plusieurs jours, du 28 au 30 janvier. On n'en a pas beaucoup parlé dans la première partie de cette émission, Oleg Ous, et pourtant, ça reste très important. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces trois jours?
Alors, il va y avoir une mobilisation de bénévoles d'un jour ou de trois jours, comme on dit, très forte. Avec d'une part un volet sensibilisation pour dire aux gens oui, la lèpre existe encore, elle déchire des vies, oui, on peut la vaincre. Donc des personnes qui vont aller dans les rues, sur les marchés, à la sortie des supermarchés, à la sortie des églises également. Donc la première chose, c'est sensibiliser par leur présence même que ce problème est encore là. Également quêter. Donc les 28, 29 et 30, vendredi, samedi et dimanche, nous avons cette autorisation de quête et interpeller également. C'est une autre chose qui va se passer et qui se passe déjà ici même par les médias, par cette affiche d'Asiba qui est présente dans les rues, par des interviews sur les réseaux sociaux et par un appel sous forme d'un appel à mobilisation, d'une pétition que nous lançons cette année. Et puis, il y a quelques initiatives qui sont un petit peu plus festives. Il ne faut pas que je déflore trop le sujet, mais il est prévu une flash mob à Lyon, place de la République.
Oui.
Donc j'en dis pas plus parce que je vous laisserai découvrir.
Le flash mob en général, ça s'annonce.
Mais il y en a d'autres en France également.
On a Marie de Nancy, une auditrice qui se demande pourquoi la Fondation fait des actions en France, pourquoi de l'argent n'est pas réservé pour aider à l'étranger. En fait, c'est ce que vous faites, Marie-Bénédicte Lose.
Oui, de suivre les différentes actions. Alors, c'est vrai qu'on a quelques projets en France, mais on a surtout des actions quand même à l'étranger. L'idée, c'est de dire que, et c'est une phrase qu'on reprend de Raoul Folro, de dire « quand je vais d'une léproserie à l'autre, je ne ferme pas les yeux ». Et l'objectif, c'est de lutter contre la lèpre, mais contre toutes les lèpres. Mmh. Et donc de permettre aux plus vulnérables de retrouver une place dans la société. Et donc c'est vrai que voilà, autour de ces malades de la lèpre, il y a aussi beaucoup d'enfants soit qui accompagnent leurs parents et qui restent à côté d'eux parce qu'ils sont malades, mais aussi beaucoup d'enfants qui sont abandonnés, qui sont orphelins, d'autres enfants qui sont handicapés et abandonnés, donc qui sont un peu les nouveaux lépreux aujourd'hui. Et puis il y a toutes ces personnes qui sont exclues, et il y en a aussi en France. Et vraiment, l'appel de Raoul Folro, c'était à construire un autre monde, un monde où chacun pourrait trouver sa place. Et c'est ce qu'on essaye de faire à la Fondation, vraiment de changer voilà les sociétés, de permettre aux plus exclus de pas être parqués, mais de d'avoir une vraie place.
Oleg Ous.
Oui, je voudrais préciser une chose par rapport à cette lèpre dans le monde et aux actions autres, c'est que évidemment la collecte pour les malades de la lèpre ira aux malades de la lèpre. Hein. Et c'est très facile pour nous de flécher les dons.
Il y a une vraie transparence.
Voilà, tout à fait. Tout à fait.
Ouais. Mais ça veut dire, Marie-Bénédicte Loos, que vous avez beaucoup de projets, de programmes qui doivent être lancés, puisque, comme on l'entendait dans la première partie de cette émission, par exemple, vous vous battez pour qu'il y ait de l'eau potable, parfois, mais ça a un impact direct et positif sur vos actions.
Oui, tout à fait. En fait, on croit vraiment que la lutte contre la lèpre, ça passe aussi pour une lutte en faveur du développement.
Oui.
On en a parlé. Le docteur Christian Johnson qui était avec nous il y a un moment, on a parlé en disant que si on veut que les personnes puissent soigner leurs plaies, il faut qu'elles aient un accès à l'eau. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que quand on creuse un forage, par exemple, à côté d'un dispensaire, ça ne bénéficie pas uniquement aux malades de la lèpre, ça bénéficie à toute la population autour. Il y a une chose qui est vraiment très très importante à dire, c'est que la lèpre, c'est une maladie extrêmement stigmatisante. Donc si on travaille uniquement pour les lépreux, on risque d'avoir moins d'impact. C'est pour ça que la Fondation Raoul Follereau lutte aussi contre les maladies tropicales négligées, dedans on trouve différentes maladies de peau, notamment la gale ou l'ulcère de Bouyrouli. Une des raisons, c'est pas qu'on veut s'éparpiller partout, c'est que quand on va dans un village pour essayer de dépister des lépreux, parce que c'est ça l'enjeu en fait avec tous les chiffres qu'on a donnés. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dépistées parce que elles habitent loin et surtout elles osent pas dire qu'elles sont malades par peur d'être stigmatisées. Donc quand on va dans un village et si on va dans un village et qu'on dit on vient dépister la lèpre, les gens ne vont pas venir nous voir parce qu'ils auront trop peur d'être stigmatisés. Du coup, on dit, on vient voir toutes les personnes dans ce village qui ont des problèmes de peau, venez nous voir. Et donc, au passage, on dépiste d'autres maladies. Et là, on a un vrai effet. Et du coup, pareil pour justement l'accès à l'eau, il est pour le village. L'accès à l'éducation, il est aussi pour le village, pour justement que ça bénéficie aux lépreux et plus largement, et pour avoir un impact à plus grande échelle, parce qu'on sait que si vous avez des personnes éduquées, si la maman d'Asiba, dont on a parlé en première partie de l'émission, avait été éduquée, elle aurait peut-être amené sa fille plutôt se faire dépister. S'il y a des pratiques d'hygiène qui sont apprises à l'école, vous avez plus de chances de pouvoir limiter les transmissions, les maladies.
On va pouvoir dérouler pendant cette émission vos différents projets. J'espère qu'on aura le temps parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Annick, vous êtes à Avignon. Bonjour Annick.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour, on vous écoute.
Oui. Je voulais témoigner seulement. J'avais un oncle qui était missionnaire, Montfortin, au Nyasaland. Je crois que c'est le Malawi maintenant. Et qui a fondé des léproseries et qui était quelqu'un d'extraordinaire. Et quand il revenait, il nous parlait de ces lépreux qu'il aimait. Il les aimait vraiment. Voilà, donc je voulais...
Et il était engagé avec Raoul Follereau, je crois, Annick.
Oui, il nous en parlait. Il nous parlait, il était très, très admiratif de Raoul Follereau. Oui.
Et vous, vous avez pu avoir l'occasion d'aller avec votre oncle, quelque part ?
Non, parce que je vous parle d'il y a pas mal de temps.
Oui.
Et puis... J'avais prévu d'aller avec lui, mais il est parti avant que je puisse l'accompagner. D'autre part, je voulais vous dire qu'il y a aussi des lépreux en Égypte, parce que j'ai eu l'occasion d'aller dans un village de lépreux à côté du Caire. Et là, j'ai vu de près ce que c'était les lépreux.
Merci beaucoup Annick pour votre témoignage ce matin dans Je pense donc j'agis au 04 72 38 20 23 Oleg Ous.
Oui, merci Annick, je crois que tout est dit, il les aimait. Voilà, c'est quelque chose aussi que nous on cherche à promouvoir, on n'est pas là pour soigner une maladie, pour soigner ou pour prendre en charge un problème éducatif. On est là pour aider à un moment donné des personnes qui ont besoin et qu'elles soient debout. Et on essaie de les aimer et de maintenir cette chaîne d'amour entre les donateurs et les acteurs sur le terrain que nous soutenons, puisque nous agissons rarement nous-mêmes, mais nous aidons à faire, nous aidons les personnes à assumer leur rôle. Merci Yannick, parce que voilà.
Allez, on a des témoignages. On en a plusieurs. On accueillera dans un instant Françoise qui habite en Savoie, qui là aussi aura un témoignage de terrain. Marie-Bénédicte Close, est-ce qu'il y a des cas de lèpre en Égypte? Pour reprendre ce que disait Annick, est-ce qu'on a des données un peu là-dessus?
Oui, on a des cas de lèpre en Égypte et la Fondation agit en Égypte.
Ah, bah voilà.
Tout
est lié.
J'ai là-bas et voilà.
Oui, alors je précise que comme je disais, nous venons en aide aux pouvoirs locaux. L'État égyptien ne nous a pas demandé d'agir sur le volet médical. Ouais. Donc on n'est pas présent. Ils font ça, voilà, de leur côté, sans demander d'aide. Nous sommes présents plutôt sous l'axe développement, éducation et puis soins de base, amélioration des soins de base.
J'aimerais qu'on revienne sur les léproseries pour expliquer à nos auditeurs qui ne connaissent pas ce terme, ce qu'on entend par léproserie, Oleg Ous. Ou Marie-Bénédicte, c'est comme vous voulez, ne vous battez pas.
je prends la parole.
Vas-y, Oleg.
Allez-y, Oleg.
La léproserie, c'est le modèle ancien, c'est le modèle de quand il n'y avait pas de traitement, et où la seule manière de lutter, d'essayer de contenir cette maladie, était d'isoler les malades. Donc c'est d'abord, la léproserie, un lieu où on isole les malades, où on les soigne bien sûr, mais où on les isole du reste de la population. Donc c'est pas notre modèle. Maintenant qu'on sait soigner cette maladie, au contraire, on cherche au maximum à la rapprocher de sa communauté. Et c'est vraiment très important. Donc on va parler de centre de soins, de centre de référence, mais plus de léproserie.
Voilà. Françoise, vous êtes en Savoie. Vous nous appelez au 04 72 38 20 23. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Bonjour.
Oui, je voulais vous dire que déjà j'étais très sensible à la Fondation Raoul Leroux, parce que lorsque j'avais 9-10 ans en CM2, la sœur nous en parlait, nous lisait des extraits de textes de Raoul Leroux. Et par ailleurs, j'ai eu l'occasion, lors d'un pèlerinage à Madagascar en 2010, avec le père Jean-Étienne Randriana Solo, de visiter une léproserie. Alors, je ne me rappelle plus du village. C'était en hauteur, c'était au fin fond de Madagascar.
Oui.
Et nous avions été accueillis par une sœur d'origine picarde, française. Et alors, ce qui m'a marqué déjà, c'était la joie qui rayonnait de son visage. Et ensuite, quand nous avons visité la léproserie, cela m'a vraiment fait penser à l'hôpital de psy des années 75, l'hôpital psychiatrique, parce que c'était un endroit qui était très autonome, qui vivait en autarcie. Par exemple, il y avait une cordonnerie pour les patients qui avaient été opérés parce qu'ils avaient perdu des membres. Et ce qui m'avait aussi fait penser à cette association d'idées, là, c'est qu'ils nous ont expliqué que les parents avaient honte, la maladie, la lèpre était vécue vraiment comme une honte, et donc ils n'allaient pas facilement faire dépister leurs enfants ou leur entourage ou leur famille, et que c'est vrai, c'est un petit peu trop, c'est un peu tard quand ils le font, quoi. Ouais. Mais j'avais beaucoup apprécié ce centre, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de, comment dire, pas d'amitié, mais de
joie, d'espérance.
Oui, il y avait la joie, et puis chacun travaillait, il y avait le jardin, c'est très important de cultiver un jardin. Par contre, ce qui m'avait un petit peu choquée, parce qu'on a visité les salles de soins, donc les baignoires c'était très bien, elles étaient en hauteur pour les soignants. Mais alors, il y avait plein de dents qui séchaient. J'ai dit, mais alors moi, ça nous a un peu choqué. Alors, les personnes nous ont expliqué, Raoul Leroux paie les médicaments, ce qui est déjà beaucoup, mais ne paie pas les accessoires, voilà.
Eh ben écoutez, merci beaucoup Annick pour ce témoignage de terrain. Ça fait plaisir à entendre, Oleg Housse.
Oui, tout à fait. Je pense que cette joie dont parle madame, enfin, c'est quelque chose qui nous motive, qui nous regonfle aussi pour garder le cap, parce que le combat est parfois difficile. On a un médecin qui est à Madagascar, qui en plus a traversé tout l'épisode de la Covid, hein, et le variant sud-africain a été quelque chose de terrible là-bas. On peut vraiment penser à Madagascar, qui pour nous est un pays prioritaire et qui est un pays très éprouvé. Je salue aussi nos amis du Burkina Faso, puisqu'on est présent là-bas. On était un petit peu dans l'inquiétude, on a été rassurés, tout le monde va bien. Mais on est comme ça dans des pays difficiles, Mali, Niger, Burkina, où le combat va être quand même plus difficile. Et à Madagascar, ce qui est difficile, c'est vraiment l'accessibilité au village. L'habitat est très dispersé, les infrastructures ne sont pas bonnes. Donc ça va être très difficile d'aller jusqu'aux malades.
Marie-Bénédicte Claude, vous voulez réagir, je crois.
Ouais. Oui, et merci beaucoup madame pour ce témoignage. Moi je voudrais juste répondre, alors je ne connais pas le centre dont vous parlez, mais la Fondation quand même essaye d'accompagner les malades plus largement que juste sur l'accès aux médicaments et aux soins, puisque comme je le précisais tout à l'heure, l'objectif de Raoul Folraud, c'était que les malades retrouvent une place dans la société. Donc ça passe aussi par un accès à de l'équipement comme des chaussures, en ayant à l'esprit l'importance que ces malades ne soient pas stigmatisés. Et alors, au début, on fabriquait des chaussures spéciales pour ces malades, et puis on s'est rendu compte qu'ils les utilisaient pas parce qu'elles étaient trop stigmatisantes. Donc aujourd'hui, on leur propose de choisir les chaussures qu'ils veulent prendre, et on adapte les chaussures qu'ils ont l'habitude de mettre pour pas trop qu'ils soient différenciés. Mais surtout, ce qu'on souhaite, c'est que ils puissent travailler, retrouver une place et jouir de leur travail. Et c'est pour ça qu'on met en place de plus en plus des projets qu'on appelle réhabilitation à base communautaire. Et l'idée, c'est que soit pris en compte donc cette composante de la santé, mais aussi la composante éducation sociale et accès à des activités génératrices de revenus. Un des bons exemples de ça, c'est le projet à Ouida au Bénin, donc dans le sud du Bénin sur la côte. Il y a là un centre de traitement anti-lèpre que la Fondation Raoul Folraud soutient et donc qui permet à des malades de la lèpre d'être soignés. Et puis, une fois qu'ils sont suffisamment en forme, d'avoir accès à l'éducation et dans le but de pouvoir trouver un travail ensuite. Je vous donne par exemple l'exemple d'un jeune qui s'appelle Lazare, qui a 24 ans et qui donc a été malade de la lèpre, qui est aujourd'hui est guéri et qui suit une formation agropastorale. Donc il a appris les techniques de maraîchage. Il est super épanoui, très autonome. Et donc actuellement, il est employé dans une ferme et il espère bien un jour pouvoir être à son compte. Donc voilà, il y a plusieurs... Et c'est le cas de... Cette formation a été suivie notamment par Asiba, dont on parlait en première partie de l'émission. Mais c'est pas uniquement ce type de formation. On essaye d'être attentif aux désirs aussi des gens. Vraiment, la Fondation Raoul Folraud essaye d'être près des gens et à l'écoute. Donc il y a d'autres formations en électrotechnique, en couture, voilà. Et donc des jeunes
cordonnerie aussi, il y a un certain nombre de...
J'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de joie dans vos actions. C'est marrant, c'est un mot qui est très important pour nous sur RCF. On a une auditrice qui s'appelle Solange et qui habite à Lyon. Elle nous dit « La maladie de la lèpre a été tellement bien romancée en 1985 avec le si beau livre de Dominique Lapierre, La cité de la joie ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais voilà.
Oui,
Marie-Bénédicte.
C'est étonnant de voir l'amour et la joie qu'il y a pour tous ces patients. Et moi, ce qui me marque en ayant rejoint les équipes de la Fondation Raoul Folraud, c'est de voir la passion. Vraiment, il faut presque pousser les gens à prendre des vacances parce qu'ils sont tellement sensibilisés, ils prennent tellement la cause à cœur. Et je discutais avec un de nos médecins au Burkina Faso qui disait l'autre, il était en déplacement dans le sud du pays et puis il buvait son café à une terrasse. Il a vu un petit garçon passer à vélo. Il s'est dit, tiens, ce petit garçon, il a une tache bizarre. Ah, il s'en est rapproché. Effectivement, c'était la lèpre. Et puis, ben voilà, il a pu, il a su en parlant avec les parents que la grand-mère avait la lèpre. Et donc, il a pu traiter ce petit garçon, traiter la famille. Mmh. Et voilà, il y a vraiment un désir chez toutes les personnes qui sont sur le terrain et nous aussi, au siège à la Fondation. Et grâce aussi à tous les bénévoles de s'engager pour vraiment changer la vie de ces gens. Et on le fait avec beaucoup de joie parce qu'on voit on voit des vies changer. Et ça donne beaucoup, beaucoup de joie.
Avant d'accueillir Véronique Durand, de la vie notre chroniqueuse. On va accueillir Huguette qui habite dans l'Hérault, qui nous appelle au 04 72 38 20 23. Bonjour Huguette.
Bonjour RCF. Oui, je suis vos émissions avec beaucoup d'attention, même si je suis occupée à travailler en même temps. Je voulais vous dire que j'ai vécu en Niger de 75 à 78. Et quand on était on sortait de notre maison provisoire, on apercevait les lépreux, bien sûr. Et ma petite fille avait peur d'eux. Elle avait 3 ans. Elle voulait leur jeter des pierres. Ils étaient partout. Ils étaient stabilisés. Donc, on leur donnait l'aumône à sortie des magasins. Et je voulais vous dire quelque chose qui m'avait vraiment touchée pour toujours. J'ai vu de mes yeux 2 lépreux qui étaient sur les genoux. Ils avaient des morceaux de cuir sur les genoux. Ils faisaient la course et ils riaient. Je trouve ça admirable. Il riait de bonheur, il faisait la course. Vous vous rendez compte, la force ?
Oui. On entend aussi, ça rejoint ce qu'on disait sur la joie, en tout cas, vraiment beaucoup d'espérance. Et puis, quand même, ces clichés qui sont nombreux, cette peur, et on en a beaucoup parlé dans la première partie. Il est 10h, passé de 21 minutes. Nous sommes avec vous deux, Oleg Housse et Marie-Bénédicte Loz. Vous représentez la Fondation Raoul Folereau ce matin à l'occasion de la Journée mondiale des malades de la lèpre, qui va être organisée pendant 3 jours d'ailleurs. Ça va être 3 grosses journées du 28 au 30 janvier. Vous continuez de nous appeler tout comme Annick, Françoise et Huguette au 04 72 38 20 23 pour nous parler de la lèpre et de la Fondation Raoul Folereau. On va accueillir tout de suite notre chroniqueuse. Bonjour Véronique Durand.
Bonjour Melchior, bonjour à toutes et à tous.
Comme ça au moins tout le monde est content. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au magazine La Vie en charge du cahier Espérance, un cahier au ton positif et c'est tant mieux pour cette émission qui fourmille de solutions. Et aujourd'hui vous vous intéressez aux structures qui s'engagent pour une gestion plus saine et durable de nos forêts. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment ça fonctionne tout ça ?
Alors, nous présentons dans nos pages qui s'intitule « Un monde meilleur », une initiative portée par la start-up Écoterie. Créée en 2012, elle a pour spécialité la valorisation écologique et économique de la forêt. Et dans ce domaine, il y a aussi fort à faire. Je m'explique. La forêt française est en grande partie morcelée. Elle appartient à des millions de propriétaires, beaucoup de privés, dont la majorité possède des parcelles de moins de 10 hectares. Et un grand nombre de ces petites propriétés forestières sont d'anciens labours ou pâturages, situés notamment en montagne, et sur lesquels la nature a repris ses droits. Alors les coupes y sont rares, peu rentables, souvent le bois de mauvaise qualité, et au fil des ans, on le sait, plus personne n'y met les pieds. Il y a pourtant là un capital foncier que notre pays pourrait beaucoup mieux valoriser. Et c'est là toute l'ambition de nombreuses entreprises en essor en France.
Alors, vous mettez justement un coup de projecteur sur quelques structures, dont une start-up qui s'appelle Écoterie. Comment est-ce qu'elle procède pour relever ce défi ?
Alors, Alice Papin, qui est auteure de ce reportage, est allée à la rencontre des acteurs d'Écoterie dans la forêt de Pézarche, au cœur de la Seine-et-Marne, à 12 km Coulommiers. Et Pézarche a une histoire représentative de nos forêts privées. Pendant plusieurs dizaines d'années, ces 16 hectares ont été laissés à l'abandon. Ils ont subi les tempêtes, la grêle, les pluies. Écoterie a pu faire l'acquisition de ce massif forestier. Depuis, elle travaille à le bonifier. Je m'explique. Ses équipes effectuent des coupes régulières et adaptées. Elle replante des espèces diverses selon des programmes annuels spécifiques qui stimulent la biodiversité et s'adaptent au changement climatique. Ici, l'homme reprend la main sur la gestion forestière et la fait fructifier en lui offrant des perspectives durables.
Et qui peut participer à ce projet, Véronique ? Comment ça fonctionne très concrètement ?
Alors, particulier ou entreprise, chacun peut contribuer avec d'autres à la gestion de tout un massif forestier. Pour participer à sa restauration et à sa préservation, on achète un ou plusieurs arbres. Il suffit par exemple d'aller sur le site internet des coteries. En quelques clics, vous faites votre choix. Un mélèze, un chêne, un douglas, âgé de 0 à 50 ans, d'une valeur de 18 à 29 euros. Et ces trois arbres, qui sont bien réels, précisons-le, poussent dans des forêts rachetées par écoterie. L'achat effectué, les bénéfices sont à la fois environnementaux et écologiques. Et au moment de la coupe, bon, d'ici une trentaine d'années au minimum, les propriétaires perçoivent l'intégralité des revenus du bois.
Eh bien voilà, jeter un arbre et la forêt vous remerciera, pourrait être le slogan de cette initiative. Merci beaucoup Véronique Durand pour cette suggestion d'investissement dans un bien patrimonial qui est riche de sens. On vous retrouve mardi prochain et en attendant, on peut réentendre cette chronique sur rcf.fr. Voilà Oleg Ous, ça peut vous donner des idées si vous avez envie. En tout cas, on entend des initiatives comme ça, positives. Il y en a beaucoup dans cette émission, je pense, donc j'agis. On continue de parler de la lèpre et notamment à l'occasion de la journée mondiale des malades de la lèpre, organisée par la fondation Raoul Follereau pendant 3 jours. D'ailleurs, pourquoi, Oleg, ça dure 3 jours? Ce sont 3 journées mondiales, en fait.
Oh, j'aimerais bien que ça soit 365
jours.
Oui,
bah oui.
Mais il y a des temps comme ça nécessaires à la mobilisation. Et pourquoi tout le week-end? Ça permet d'être présent aussi en semaine, le vendredi. On peut faire des actions de sensibilisation à la sortie de son travail. Il faut faire preuve de créativité ici. Et bon, c'est le temps qui nous a été donné aussi par les pouvoirs publics pour avoir l'autorisation de quêter. Il y a aussi une petite montée en puissance sur le week-end. Je parlais des flash mobs. Donc, il y aura des choses le samedi. Et d'autres le dimanche. Plus on en a, mieux on se porte. Et on voudrait que la mobilisation dure toute l'année. Si on peut revenir un petit peu sur les projets, planter un arbre, nous on propose de planter un homme, planter une femme, de manière à ce qu'elle soit debout. Et dans notre manière d'agir, on promeut beaucoup des projets qui prennent en compte la globalité de la personne. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire à Chiepo, qui est un petit village un petit peu au nord-ouest d'Abidjan. On a choisi cette zone-là parce qu'elle était endémique ou co-endémique de plusieurs maladies tropicales négligées. Et c'est l'endroit qu'on a choisi pour développer des actions.
WASH.
Voilà, mais au-delà de WASH même, je dirais tous azimuts, c'est-à-dire qu'ils reprennent en compte les 6 axes de la stratégie santé telle qu'on l'a définie pour vaincre la lèpre, mais aussi prendre en compte les préoccupations de la population de manière à ce qu'elles adhèrent à ce projet dès le départ, dès la conception du projet. Et en l'occurrence, à Chiepo, ça a été pour un groupement de femmes de pouvoir avoir les moyens de gérer le marché de Chiepo. Il fallait d'abord qu'elles résolvent ça et elles l'ont fait. On les a aidées par la méthodologie de travail en groupe. Et derrière, ça a ouvert beaucoup de portes sur l'accès à l'eau, sur l'éducation, l'éducation à l'hygiène.
Justement, Marie-Bénédicte Close, est-ce qu'on pourrait développer un peu ce projet WASH, histoire de voir un peu plus concrètement comment ça fonctionne?
Alors oui, on peut développer ce projet WASH où je m'étais dit qu'on aurait pu parler, comme la dame parlait du Niger.
Ah oui.
Une auditrice parlait du Niger. On a aussi un projet qu'on est en train de lancer là au Niger, à Niamey. Il y a un quartier très pauvre une espèce de bidonville où il y a pas mal de lépreux. Et justement, on veut mettre en place comme ça aussi un projet avec différentes composantes, donc une réhabilitation du dispensaire. pour permettre aux gens de la zone d'avoir accès aux soins, mais aussi vraiment d'intégrer donc les lépreux et de faire un travail avec la communauté pour écouter leurs besoins, écouter leurs désirs et les impliquer dans ce projet et leur faire prendre conscience des différentes composantes de la société, que les lépreux aussi en font partie, et voir toute la richesse de cette société, voir qu'ils ont dans les mains la possibilité de changer leur avenir et d'en faire de leur village un monde meilleur. Alors là, c'est pas un village, hein, c'est plus un quartier dans la grande ville, mais voilà. Donc c'était pour rebondir sur le Niger comme l'auditrice en parlait, mais pour venir sur Chiepo, pour d'autres projets qu'on est en train de mettre en place en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a aussi toute cette en plus de réhabiliter les dispensaires, il y a aussi la volonté de donner accès à l'eau via des forages ou de permettre l'accès à l'hygiène, notamment dans les écoles, en construisant des latrines et en faisant des clubs dans les écoles pour que les enfants apprennent vraiment l'importance de l'hygiène. Voilà, et tout ça participe, comme on le disait, au développement qui permet d'éradiquer la lèpre. C'est vraiment pas décorrélé, hein. Ça va vraiment ensemble, et c'est ça qui on y croit. Et puisqu'on parlait de l'Égypte, voilà, c'est vrai que le gouvernement lutte contre la lèpre de son côté, mais comme on le disait, en luttant plus largement pour le développement, on contribue aussi à cette lutte contre la lèpre.
Et on continue d'en discuter ce matin dans Je pense, donc j'agis, jusqu'à 11h avec vous deux, Oleg Ous et Marie-Bénédicte Lauze, et toujours avec vos témoignages, vos réactions, vos questions au 04 72 38 20 23. À tout de suite. Vos réactions en temps réel au 04 72 38 20 23 pour nous parler de la lèpre et de la fondation Raoul Follereau. Vous avez également la possibilité de nous envoyer des messages par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Et le troisième moyen, c'est de rejoindre notre groupe Facebook. Si vous avez Facebook ouvert, allez-y. Le groupe s'appelle Je pense, donc j'agis, et vous pouvez réagir dans ce groupe.
Pourquoi faire aujourd'hui qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Pourquoi faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Pourquoi faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Pourquoi faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? To-do list, passer le balai, passer la mop, appeler ma mère, faire du bénévolat, en vas-tu prendre un café, en vas-tu prendre un drink? Je pourrais prendre une marche, il fait beau soleil, sortir dehors, ça me ferait pas tôt, regarder une série, peut-être une deuxième, me couler un bain, me semble je le mérite.
Faire demain. chanteuse du Canada sur RCF, Lisa Leblanc, Pourquoi faire aujourd'hui, Marie-Bénédicte Lose, c'est une chanson qui vous inspire, je crois.
Bah oui, parce que pourquoi faire aujourd'hui? Parce qu'on peut pas attendre, ouais. Parce qu'il y a des vies en fait. Il y a vraiment des gens qui souffrent de cette maladie et qui sont ravagés par cette maladie et voilà. Et plus vite ils prennent le traitement et plus ils peuvent avoir des chances d'avoir moins de séquelles. Donc on veut vraiment agir maintenant. J'encourage vraiment les auditeurs à aller faire un tour sur le site internet de la Fondation et regarder ce très beau film réalisé par la journaliste de la Fondation Marie-Charlotte Nulens, qui a fait un film sur l'histoire d'Asiba, dont on parlait en première partie de l'émission, et qui clairement explique qu'on ne peut pas attendre demain, parce qu'il y a une maman qui a été ravagée par la lèpre, et qui a un petit garçon, qui est absolument magnifique, ouais. Qui s'appelle Jérémy, qui est en bonne santé. Mais si on avait attendu pour soigner sa maman, on ne sait pas ce qui serait devenu ce petit garçon. Et puis, si on avait attendu aussi pour lui donner une formation, on ne sait pas trop comment elle lui aurait donné à manger. Et si on avait attendu pour lui donner une bourse scolaire pour qu'il puisse aller à l'école, on ne sait pas trop ce qu'aurait été son avenir. Donc il faut qu'on commence aujourd'hui. Le temps du développement et de la guérison, ce sont des temps qui sont quand même longs. Donc il y a une urgence à commencer. Ce qu'on réalise pas toujours, nous en étant loin du terrain, c'est que autour de ces malades de la lèpre, il y a souvent des enfants, des enfants qui accompagnent leurs parents dans les centres où les personnes viennent suivre les soins. Il arrive qu'elles passent de longs mois et souvent elles sont accompagnées par leurs enfants. Et ces enfants, ils ne vont pas à l'école parce que les parents n'ont pas les moyens de les y envoyer. Mmh. Donc la Fondation accorde des bourses. Alors, accorde des bourses à plusieurs enfants pour qu'ils puissent suivre une scolarité normale et puis avoir un bel avenir.
On va en parler, on va revenir sur ces bourses dans un instant, Marie-Bénédicte. Oleg Ous, je crois que la chanson vous a inspiré de Lisa Leblanc.
Oui, aussi.
Pourquoi faire aujourd'hui?
Pourquoi faire aujourd'hui ce que je peux faire demain? Elle a cité faire du bénévolat dans la chanson. Ouais. Ça c'est bien ça de faire du bénévolat aujourd'hui, de manière à ce que ça dure pas 3 jours, mais beaucoup plus que ça dans l'année. Et on vous promet une chose si vous venez faire du bénévolat à la Fondation, c'est de la joie, beaucoup de joie. Voilà, au service.
Ouais. Pourquoi faire aujourd'hui, Lisa Leblanc, une chanson dans la sélection d'RCF qui vous inspire ce matin, et c'est tant mieux.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Je rappelle, Oleg Ous, que vous êtes président du directoire de la Fondation Raoul Follereau. Marie-Bénédicte Lose, vous êtes directrice adjointe des projets à la Fondation Raoul Follereau. Vous avez toutes et tous la parole ce matin pour participer à cette émission au 04 72 38 20 23. Marie-Bénédicte, alors on peut revenir sur ces bourses scolaires. Vous aviez commencé à teaser un petit peu. Allez-y, vous pouvez continuer parce que là aussi, ça reste un engagement très fort de la part de la Fondation.
Oui, et un engagement qu'on veut poursuivre parce que, comme je vous disais, il y a pas mal d'enfants qui gravitent autour de ces malades. Je pense notamment, on donne pas mal de bourses scolaires à Pobé, dans un hôpital qu'on soutient. Donc Pobé, c'est au Bénin, donc un hôpital qu'on soutient là-bas. Et je pense à une famille notamment. La maman est malade de la lèpre. Elle est très volontaire. Elle a envie de s'en sortir. Elle a essayé de démarrer quelques activités génératrices de revenus, mais la maladie la rattrape à chaque fois. Et elle a deux enfants, donc qui sont avec elle à l'hôpital, qui ont pu bénéficier. Alors dans cet hôpital, on a mis en place une petite école pour que justement les enfants qui accompagnent leurs parents puissent ne pas être trop déscolarisés pendant les temps de soins qui peuvent être très longs. Mais là, ces deux enfants se montrent très volontaires et la maladie, dure. Donc on a donné une bourse à ces deux enfants, l'un à 6 ans et l'autre à 8 ans. Et la petite fille qui a 6 ans, qui s'appelle Mademoiselle Sourire, quand l'ancien directeur de l'hôpital a appelé Mademoiselle Sourire et qui vraiment dispense des sourires à tout le monde et répand cette joie dont on parlait, et très très heureuse de pouvoir aller à l'école et apprendre et voir que son avenir sera pas celui de sa maman. Et ça, c'est vraiment important pour nous dans la construction d'un monde différent et où il n'y a pas d'exclus que voulait Raoul Follereau.
Oleg Ous, sur ces engagements.
Je peux peut-être donner un autre exemple. C'est un petit peu plus tard, c'est celui de Thérèse. qui est une jeune fille qui a été soignée des formes graves dont parlait le docteur Christian Johnson, les érythèmes noueux lépreux. Ouais. Donc les nerfs sont attaqués et ça demande des soins de longue durée. Alors elle, par chance, a pu être dépistée à temps, mais elle a passé des années en traitement sous cortisone. Traitement très très difficile qui nécessitait qu'elle soit dans un centre. Et là, effectivement, son éducation a été prise en charge. Et c'est une personne qui a envie de devenir soignante. Et on a la joie de lui proposer de financer ses études de soignante pour qu'elle-même, à l'exemple de ce qu'elle a reçu, puisse donner à nouveau.
Oui. Voilà aussi, on a des beaux témoignages. Olivier nous dit par mail, je suis touché par le sujet de votre émission. Et le hasard fait que je pense régulièrement à cette maladie dont on ne parle plus. Plutôt que des questions, j'aurais une remarque à vous soumettre. Je vois directement le parallèle avec l'époque que l'on vit liée au Covid. On se rend bien compte que certaines personnes occultent la réalité de la situation. Des personnes souffrent et ont des séquelles à vie. Je pense qu'un peu plus de solidarité et de fraternité permettrait à chacun d'aider les autres. Et c'est bien main dans la main que l'on peut avancer. Oleg Ous, est-ce qu'on peut facilement faire ce parallèle entre cette maladie qui malheureusement nous accompagne depuis 2 ans, en l'occurrence, le Covid, et puis ce qui se passe avec la lèpre.
Et, clairement, oui. Je pense que les gens comprennent beaucoup mieux maintenant qu'est-ce que ça veut dire d'être exclu pour la maladie, puisqu'on a vécu des périodes de confinement, des périodes où on doit s'isoler, de la vie sociale. Alors, heureusement, c'est 7 jours ou c'est 10 jours. Mais imaginez ça toute une vie, un instant. Voilà. Ouais. Le parallèle, il existe. Les malades aussi ont souffert eux-mêmes de cette pandémie, puisque il y a eu un ralentissement, voire dans certains pays un arrêt du dépistage. Et les chiffres de l'an dernier baissent, mais de plus de 30%. Mais c'est pas du tout une bonne nouvelle. Et donc, il faut sûrement un sursaut, effectivement, de remobilisation. Et puis, ça fait du bien aussi de ne pas entendre parler que de la Covid.
Oui, mais alors justement, alors on sort un petit peu du cadre de l'émission, Marie-Bénédicte Loz, mais est-ce que le Covid a fait du mal à vos actions, ou au contraire, ça a permis, comme vient de le dire Oleg, de révéler aussi ces maladies qu'on pense disparues et pourtant qui existent encore. On se souvient que pendant le confinement, la peste d'Albert Camus a rencontré un immense succès au niveau des ventes. Est-ce que ça a été, allez, on va dire positif ou négatif ? C'est quand même compliqué à dire, Marie-Bénédicte Loz. Mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que
oui.
Je suis partie dans mes pensées. Mais...
Non, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Comme disait Oleg, c'est vrai que maintenant, on comprend mieux quand on parle de cas contact, de transmission par les gouttelettes, les choses comme ça. Je pense que tout le monde voit mieux de quoi il s'agit. Et donc, c'est vrai que la lèpre aussi, c'est quelque chose qui se transmet par le contact prolongé avec des porteurs de la maladie. Donc, on comprend un peu mieux ça. Le problème, c'est vrai que du coup, on s'est beaucoup concentré sur la Covid comme s'il n'y avait plus que ça. Et ce qui a été vraiment difficile et qu'on oublie de raconter, c'est que on a de nombreux partenaires en Afrique qui nous ont appelés en disant c'est vraiment difficile avec cette maladie, les marchés sont fermés, les écoles sont fermées, mais surtout du coup les marchés sont fermés, donc toutes ces personnes qui allaient au marché, alors pas forcément que des malades de la lèpre, mais de façon générale dans le pays, de qui allaient au marché, ils ont plus accès, ils peuvent plus vendre et gagner le minimum qu'ils avaient pour vivre chaque jour, et du coup on a vu une augmentation de la pauvreté et des demandes et des enfants aussi qui finissaient à la rue. Et on n'a pas, nous, pendant cette pandémie, on a faire ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas fermer les yeux entre deux léproseries et continuer à soutenir nos partenaires qui accueillent aussi ces enfants exclus et vulnérables.
Oleg Ous,
il y a un an et demi, on a essayé de diffuser une tribune. On n'a pas trouvé un grand écho. C'était un peu un coup de gueule de dire que le meurtrier, c'est pas celui qu'on pense, et c'est pas, enfin dans ces pays-là, c'est pas la Covid qui a tué, c'est les mesures de confinement. Il faut bien voir qu'il y a des gens qui sont des journaliers, et s'ils travaillent pas la journée, ils mangent pas.
Ouais. Vous êtes sur RCF, il est 10h45. On continue d'explorer les différents projets que vous organisez, que vous montez en tout cas au sein de la fondation Raoul Follereau. Alors on a parlé des projets WASH. Peut-être on peut revenir sur WIDA parce qu'on en a parlé rapidement tout à l'heure, Marie-Bénédicte Lose.
Oui, ben alors le projet WIDA, il est en lien avec le centre de traitement anti-lèpre donc qui a dans ce lieu. Et ce projet-là, il a, comme je crois que j'avais évoqué un peu, donc 4 volets, donc la santé pour que les malades de la lèpre puissent être soignés, l'éducation pour qu'ils puissent avoir alors souvent commencer par une alphabétisation parce qu'il y en a un grand nombre qui savent pas forcément compter ou lire. Et puis après, quand ils peuvent une formation, soit agro-pastorale, soit dans différents métiers. Il y a tout un volet aussi social. En fait, l'idée c'est que ces malades puissent être accompagnés, suivis aussi dans leur lieu de vie, et que ce qui a été acquis au niveau éducatif et puis dans les différents groupes de parole qui se passent dans ce centre puisse perdurer. Dans leur lieu de vie. Et le dernier volet, c'est les AGR, donc les activités génératrices de revenus, de permettre qu'une fois que ces personnes-là sont formées, de pouvoir avoir accès s'ils ont fait une formation en maraîchage, avoir accès à ça peut être un cheptel ou ce qu'il leur faut pour démarrer une activité professionnelle. S'ils se sont formés en couture, c'est avoir accès à une machine à coudre pour que vraiment ils puissent après être autonomes. C'est vraiment notre désir que ces hommes et ces femmes qui ont eu la maladie puissent être debout, puissent avoir une place dans la société et continuer à transmettre cette joie. Ce volet social, il est important. Je pense à notamment un monsieur qui, un ancien malade de la lèpre encore au Bénin, qui vient d'un village vraiment très très reculé, et l'assistante sociale qui le suivait et donc qui fait partie de projet. Alors là, c'est pas sur WIDA, c'est sur un autre centre, mais bon, c'est lié à WIDA quand même. Mais l'assistante sociale qui le suit a fait un travail avec la communauté pour que la communauté puisse lui redonner une place. Alors ils ont finalement, alors ça a été très dur parce qu'ils avaient peur, mais déjà le fait que l'assistante sociale vienne avec cet ancien lépreux, ça disait que regardez, n'ayez pas peur, il y a pas de souci. Ça a été tout un travail pour que la communauté accepte de lui donner un champ à côté du village. Et là, pour le moment, ils lui ont mis une petite case. C'est pas totalement dans le village, c'est un peu à côté. Et donc, on essaye de continuer à faire ce travail. Ce travail social, il est très important pour consolider les acquis de ces anciens lépreux et continuer à les encourager à se battre et à pas tomber dans une forme d'assistanat, mais aussi pour que la communauté, et on voit au fur et à mesure, les enfants s'approche davantage, ils lui rendent un peu service pour aller chercher de l'eau. C'est pas simple, mais c'est vraiment, il y a tout ce volet-là qui est vraiment important. On en parlait en première partie de l'émission, le docteur Johnson et Oleg ont parlé de l'importance de la réinsertion. Ouais. C'est pas uniquement d'être soigné, mais c'est pouvoir retrouver une place. On a envie de continuer à agir et de pour que le frère d'Asiba ne quitte plus le village quand sa sœur arrive, et que vraiment il puisse être considéré comme des richesses pour ce village.
Oleg Ous.
Quand je pense à WIDA, je pense aussi à l'ouverture à d'autres pathologies. cette intégration dont parlait Marie-Bénédicte s'ouvre aussi à d'autres types de handicaps. Heureusement, la lèpre diminue, et ce centre est au Bénin. Au Bénin, on est en train de gagner la bataille de la lèpre, donc il y a moins de cas, mais c'est le moment le plus dur. C'est le moment où ça devient difficile de continuer à mobiliser des ressources et des compétences. Et pour nous, c'est une nécessité d'ouvrir à d'autres maladies, c'est-à-dire d'ouvrir cette belle compétence qu'on a acquise pour d'autres bénéficiaires, ce qui nous permet aussi d'améliorer vraiment le développement de ces pays-là, où on agit en capitalisant sur cette expérience, et de convaincre les décideurs, de pouvoir dire à nos donateurs aussi que certes, on soigne des lépreux, mais Il y a beaucoup, beaucoup d'autres personnes qui bénéficient de cette...
Marie-Bénédicte.
Parce que Raoul Folraud disait qu'il fallait combattre la lèpre et toutes les lèpres. Et une des lèpres aujourd'hui, notamment en Afrique, c'est le handicap. Il y a énormément de pays dans lesquels avoir un enfant handicapé, c'est un signe d'une malédiction, d'un mauvais sort qui a été jeté. Et on retrouve, c'est le cas à Madagascar, mais dans différents pays, des enfants qui sont laissés dans une pièce sombre. On leur donne un plat de riz quand on y pense. D'autres sont attachés des fois à des arbres et battus parce qu'on croit qu'il y a le mauvais sort, ou abandonnés. Je pense à ce petit David qui a été accueilli par un centre qu'on soutient à Bonoua, en Côte d'Ivoire. C'est à une heure d'Abidjan, qui avait été abandonné dans une maison désaffectée, et puis des enfants jouaient au foot et puis ils ont entendu pleurer un bébé, ils se sont approchés, ils ont découvert ce petit garçon handicapé qui avait été abandonné. Ils se sont rapprochés de la maison Saint-Joseph qui accueille ses enfants et qui a recueilli ce petit David, qui lui a prodigué des soins. Et aujourd'hui c'est vraiment réjouissant de savoir ce petit garçon qui, avec des prothèses, commence un petit peu à marcher, arrive à manger tout seul et surtout rayonne et offre des sourires. Et c'est beau parce que il transmet tellement. Il y avait une des soignantes du centre qui disait: moi, quand je suis arrivée, j'étais dépressive, vraiment j'avais pas de joie de vivre, et de voir David handicapé sourire autant, ça m'a donné un autre regard sur la vie, et aujourd'hui je souris et je rayonne avec lui, donc c'est vraiment beau. Et donc voilà, à Ouida, effectivement, comme le soulignait vraiment très justement Oleg, on s'ouvre à d'autres formes de handicap, parce que c'est vraiment quand même eux qui sont très très exclus aujourd'hui.
Oui. Les pauvres sont nos maîtres. Je reprends peut-être une dimension un petit peu plus spirituelle, mais on se dit qu'on va apporter des choses, et en fait c'est pas vrai, on reçoit. C'est eux qui nous donnent cette colonne vertébrale spirituelle, en fait. Et c'est vraiment concret ce que je dis là. L'exemple de cette soignante est important. Je vais donner un exemple qui est plus du tout dans la lèpre. Ça se passe à Beyrouth. Et on a participé à la journée Fratello. Et on a retrouvé des pauvres qui étaient de toutes les religions, qui se sont retrouvés, qui ont vécu un bon moment ensemble, qui ont prié ensemble. Et en fait, les pauvres nous montrent ce que peut être le Liban de demain. Voilà. Donc là, on s'éloigne de la lèpre, mais les exemples comme ça en Afrique, on en a aussi plein, qui nous redonnent du sens. Voilà, le sens de notre vie.
On entend en tout cas cette implication immense, très importante, à la fois des bénévoles, des salariés de la Fondation Raoul Folraud, dans des endroits où on a l'impression, alors dites-moi si je me trompe parce que c'est important, que les gouvernements restent inactifs face à ces situations. Qu'en est-il, Oleg Ous? Est-ce que les gouvernements de ces pays où la lèpre est toujours présente restent inactifs et comptent uniquement sur les actions d'associations, d'ONG ou de fondations comme vous?
C'est inégal. Ouais. Ça dépend des pays. Il est clair que dans les politiques de santé, quand on parle de quelques dizaines ou centaines de malades par rapport aux problématiques du sida, de la tuberculose, du paludisme, on passe derrière, c'est sûr. Donc on essaie de dépenser beaucoup d'énergie et d'apporter un soutien. On ne se substitue pas, et en particulier on demande à ce que le personnel soit mis à notre disposition de santé. Et puis nous, c'est dans l'ordre des choses, on prend en charge la formation et la logistique. On arrive quand même à bien travailler ensemble. Ouais. Et lors des journées mondiales des malades de la lèpre, on a encore, dans beaucoup de pays, la mobilisation de ministres qui viennent faire la fête avec les malades de la lèpre. Et donc ça, c'est resté très fort dans la culture, où finalement, Raoul Folraud est beaucoup plus connu en Afrique de l'Ouest qu'en France, et populaire. Et ça, c'est heureux, et on veut vraiment le maintenir.
Marie-Bénédicte, vous voulez peut-être compléter, réagir?
Bon, juste dire que nous, on essaye d'encourager justement les gouvernements à s'impliquer sur cette cause avec nous, et on soutient, on soutient notamment au niveau des départements, des ministères de la santé. On essaye de les encourager à vraiment se mobiliser sur cette maladie et on les soutient pour qu'ils puissent le faire. Parce que il faut que cette maladie puisse être éradiquée. Ça passe par le dépistage. On a parlé des chiffres. Les chiffres qu'on a pu donner en début d'émission, c'est le nombre de dépistés. Il y a certainement beaucoup plus de malades, mais qu'on n'a pas dépistés, donc ils sont pas comptés. Donc il y a encore un vrai travail et on essaye d'embarquer les pouvoirs publics avec nous parce que c'est quand même eux qui sont là, eux qui restent.
Oleg, un petit Fioretti. Alors c'est la France dont je parle là, puisque. Ouais. C'est au Burkina Faso, on a eu une implication de l'ambassade de France pour financer un dépistage dans un camp de réfugiés à Kayar, au Burkina. Et ça aussi, c'est important que la France, qui est présente dans ces pays-là, s'implique à nos côtés.
Je vous lis un message et ça va être, je pense, le point final de cette émission d'un auditeur qui semble très engagé avec Raoul Folloreau, qui nous dit « La joie nous rejoint ensemble, une raison de vivre qui embellit toutes nos actions, nos projets, notre vie. J'ai personnellement été marqué par ce chef de village malgache, lépreux, terriblement défiguré par la maladie, mais qui a su m'accueillir ainsi. Bienheureuse lèpre, monsieur, qui m'a permis de vous rencontrer. La joie de ma visite au nom de Raoul Folloreau était plus forte que la souffrance avec cette maladie. »
Amen.
Marie Bénédicte, cette joie, ça peut paraître parfois très naïf de dire ça, mais elle vous fait peut-être tenir aussi dans votre engagement pour Raoul Folloreau.
Oui, tout à fait. La joie et l'engagement. Moi, je suis touchée et j'en profite pour remercier, tous ces bénévoles, tous ces donateurs et toutes les équipes qui vraiment s'engagent et qui permettent de changer les choses. Et ça, c'est vrai que, ouais, il y a cette joie, mais il y a aussi cet engagement commun et pour changer des vies qui vraiment est porteur. Donc, là, merci à tous.
Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Donc, on peut vraiment inviter chacun de nos auditeurs à aller sur le site internet de la Fondation Raoul Folloreau pour déjà aller se renseigner sur cette journée mondiale des malades de la lèpre du 28 au 30 janvier.
Et y découvrir des trésors de témoignages en particulier, parce qu'on valorise énormément... Ouais. Nos bénéficiaires et en essayant de montrer cette joie de l'homme qui et de la femme qui est debout.
Donc rendez-vous sur le site internet, je vais donner l'adresse tout de suite, raoul-folloreau.org, où on peut aller retrouver aussi des parcours de vie, des histoires, tout comme celle de cette jeune fille qu'on a citée tout à l'heure.
Tout à fait.
Asiba.
Merci beaucoup, Oleg Ous, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes président du directoire de la Fondation Raoul Folloreau. Et puis, merci à vous, Marie-Bénédicte Lose, directrice adjointe des projets à la Fondation Raoul Folloreau. Merci à toutes et tous pour vos nombreux témoignages dans cette émission. Je rappelle qu'on peut réécouter cette émission sur rcf.fr. Merci à Pierre-Henri, Thomas et Mélissa qui ont permis la réalisation de cette émission. On se retrouve demain de 9h à 11h avec Véronique Alzieux. On va parler de la nuit des témoins avec des veillées qui sont organisées aux quatre coins de la France pour soutenir, pour également prier pour les chrétiens persécutés à travers le monde. On en parlera demain de 9h à 11h. Je vous rappelle que vous pouvez également rejoindre notre groupe Facebook. Il est actif, ce groupe, et vous pouvez poster plein de messages à l'intérieur et puis participer activement, vous aussi, à la réalisation de cette émission. Bonne journée à tous.
Merci, Melchior.